Docteur Ozias Silas Guirivico Yanti, bonjour.
Bonjour, monsieur Senapai.
Vous êtes le médecin-chef de l'hôpital du district de Bokaranga. Vous travaillez dans des conditions que nous constatons précaires. Vous manquez de services de radiographie pour les diagnostics. Mais comment, dans cet état, vous arrivez à traiter des cas qui nécessitent le service de radio?
Merci beaucoup, monsieur Senapai, pour la question. Je pense que nous, on a été formés comme médecins généralistes et nous sommes omnipraticiens. Et donc, on se base beaucoup plus sur la clinique. Donc, dans les conditions difficiles, on se base sur ce que tu vois sur le malade. Et à base de ça, tu poses ton diagnostic et tu mets un traitement. C'est vrai qu'il y a des limites parce que la radiographie aussi fait partie des examens complémentaires, c'est-à-dire des examens qui nous aident à confirmer ou bien infirmer un diagnostic. Mais comme la présence de la radiographie fait défaut, on se base sur la clinique pour poser le diagnostic et traiter les patients. Et avec ça, par la grâce du bon Dieu, nous arrivons à traiter les malades.
Mais dans ce cas-ci, ça nécessite la radiographie. Est-ce que vous référez les patients dans un autre centre?
Effectivement, si vraiment on a besoin du résultat de la radiographie, souvent on réfère les patients à Bois, à une clinique privée catholique là, qu'on appelle Beninga ou bien Maïgaro, pour nous faire juste la radiographie et que le patient prend le cliché et ramène le résultat ici avec nous afin de décider de poser le diagnostic et de mettre un traitement. C'est vrai que nous sommes un hôpital du district, on devait avoir tous les plateaux techniques, la radiographie, mais comme la présence de cette radiographie fait défaut, souvent on fait référence à Bois.
Est-ce qu'aujourd'hui vous bénéficiez des gratuités de soins comme dans d'autres districts sanitaires?
Effectivement, nous bénéficions aussi de la gratuité de soins selon la politique du chef de l'État où il avait fait un décret en 2019 sur la gratuité ciblée, c'est-à-dire prendre en charge gratuitement les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les survivantes de VBG. Nous faisons cette gratuité-là à travers l'appui des partenaires qui étaient là avant mon arrivée et qui continuent toujours à aider l'hôpital, tel que il y a le partenaire Quam qui nous a aidés dans ce sens-là et qui a donné relève au partenaire Alima qui est en train de s'installer. Et il y a le partenaire IRC aussi qui est là, évidemment, qui nous aide dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles.
Vous êtes un hôpital qui a comme capacité d'accueil environ 100 lits. Est-ce que cette capacité d'accueil suffit pour toute la population de la sous-préfecture estimée à 100 quelques mille personnes?
Je crois que cette capacité est insuffisante par rapport à la densité de la population, parce que quand vous voyez juste la sous-préfecture de Bokaranga, on tourne autour de 118 000 habitants. Et il y a aussi des patients qui quittent la sous-préfecture de Ngaoundaï, la sous-préfecture de Kui, qui préfèrent venir se faire soigner à l'hôpital de district de Bokaranga. Donc du coup, nous avons plus de demandes de services et donc c'est cette capacité-là, à mon avis, c'est vraiment à réviser ou bien à renforcer, parce que les 100 lits, là, vraiment, ça pose problème. Il arrive des fois que, surtout en pédiatrie, nous mettons 2 ou 3 patients par lit juste pour gérer les places. Donc, je pense que cette capacité d'accueil-là, vraiment, c'est à renforcer.
Mais qu'est-ce qui explique le fait que les bâtiments sont presque en ruine? Est-ce qu'il n'y a pas de projet dans ce sens? Est-ce que vous-même, vous êtes conscient de l'état des bâtiments dans lesquels vous prestez?
Bon, concernant l'état des bâtiments, vous savez que nous fonctionnons à base de recouvrement de coûts. C'est le conseil de gestion qui pilote le fonctionnement de l'hôpital à travers l'appui des partenaires. Mais quand les partenaires viennent, ils ont des projets bien détaillés. Et le bailleur finance les projets déjà bien détaillés. Et dans les projets précédents, il n'y a pas une partie où on a mis la réhabilitation des bâtiments. Donc beaucoup de projets se focalisent sur la prise en charge gratuite des enfants, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Mais ils oublient l'aspect logistique, réhabilitation des bâtiments, l'aspect l'eau courante. Donc du coup, ça pose problème. Et vous savez que la capacité de conseil de gestion, d'abord d'appuyer les personnels qui ne sont pas primés par les ONG et l'aspect de fonctionnement de l'hôpital en général. Donc, le conseil de gestion n'a pas cette capacité-là de faire des projets de plus de 10 millions, plus de 15, 5 millions. Donc, du coup, le conseil de gestion fonctionne à travers sa capacité. Donc, du coup, l'aspect réhabilitation consultations, souvent c'est un peu négligé par ses partenaires, par le conseil de gestion.
Monsieur Guéré-Vico, vous êtes le seul médecin fonctionnaire de l'État qui est déjà intégré dans cet hôpital sur 54 personnels. Qu'est-ce qui explique cette faiblesse en matière de personnel qualifié?
Là, c'est une question que vous me posez, ça ne révèle pas de ma compétence à répondre. Moi, j'ai été intégré, affecté ici à Bokaranga. C'est l'État qui m'a envoyé ici, je suis fier parce que j'avais quitté l'ONG pour servir mon pays. Je pense que cette question vous devez poser au ministre de la fonction publique, peut-être n'a pas voulu...
Vous n'avez pas de plaidoirie dans ce sens?
Non, c'est pas ça la question. Moi, j'ai été intégré, c'est ma part, j'y suis venu, j'ai pris service, tant bien qu'il n'y a pas personnel de l'État ici. J'ai travaillé pour mon pays et voilà, j'encourage aussi les jeunes ou bien les fonctionnaires de l'État qui veulent toujours rester dans les ONG et de venir contribuer au développement du pays. On ne peut pas laisser le pays à la main des étrangers. Toujours dans les ONG, tu vas trouver les expatriés maliens, nigériens, congolais, tout ça. Mais nous-mêmes, nous les fils du pays, devons prendre conscience de venir aider au développement de ce pays. Peut-être qu'il y a certains collègues qui sont intégrés, affectés aussi ici à Bokaranga, mais qui ne veulent pas prendre service.
Mais sur la prestation, ça pose quand même problème puisque vous n'avez pas de personnel qualifié qui doit répondre aux préoccupations de la population.
Effectivement, nous avons des infirmiers sécuristes qui travaillent à base de volontariat, qui sacrifient leur temps, mais leur rémunération ne reflète pas aussi la réalité du coût de vie avec l'augmentation du coût de vie. Là, tu vois un sécuriste qui gagne 30 000, 40 000, 25 000, tout ça. Et donc, c'est des gens qui se sacrifient pour le développement de leur localité. Donc, du coup, nous, on n'a pas besoin d'attendre toujours les personnels qualifiés parce que tu es face à la réalité, tu dois t'adapter. C'est ce qu'on appelle l'adaptation selon les conditions que tu es en train de vivre.
Vous n'avez que ce véhicule qui est presque dans un mauvais état, une ambulance bien sûr, alors que vous dépendez de plusieurs localités pour prendre des malades, pour l'évacuation, pour le transfert. Est-ce qu'aujourd'hui, ce problème n'est pas une pierre d'achoppement dans vos prestations?
Honnêtement, je pense que ça a posé problème. Comme j'avais pris service, j'ai fait déjà presque une année, je tends vers la deuxième année, on n'avait pas l'ambulance. Ça dit pour évacuer un malade chez Bangui, c'est le malade même qui se débrouille. Hein. Franchement, il faut dire la vérité. Peut-être il va utiliser un transport commun ou bien il va faire quoi, je sais pas. Ou bien sur la moto, tout ça, c'est une triste réalité. Nous avons une ambulance qui était vraiment en panne. Nous avons demandé à un mécanicien, un technicien de venir faire un devis. Le devis était vraiment élevé. Mais avec ça, le conseil de gestion a pris conscience de procéder à une réparation progressive. Et là, nous arrivons à un niveau où l'ambulance peut fonctionner un peu, mais pas sur une longue distance. Hein. Peut-être quitter ici pour aller à boire, prendre quelques médicaments, c'est possible. L'ambulance, ça fonctionne pour le présentement. Ça nous permet de nous ravitailler en médicaments depuis le dépôt pharmaceutique de bois. Mais quitter Bokaranga jusqu'à Bangui, bon, là, ça reste encore entre guillemets. Mais je pense que nous avons besoin encore d'une autre ambulance pour nous permettre non seulement d'évacuer nos patients, mais aussi de nous ravitailler en médicaments pour prendre en charge correctement les patients de Bokaranga.
Qu'est-ce que vous attendez de l'État, du ministère?
Nous attendons une nouvelle donation parce que tu vois, juste à notre côté, à Pawa, si je ne me trompe pas, l'hôpital de Pawa a presque 2-3 ambulances. Hein. Et donc, nous, à Bokaranga, nous avons presque rien. Quand j'étais arrivé, il y avait 0 ambulance. Tu vis avec un voisin à côté qui a tout et alors que chez toi, tu n'as rien, ça te crée un peu de méfiance. Hein. Et donc, du coup, nous avons cette volonté de renforcer les choses et puis Dieu nous a fait cette grâce. Nous avons pu réparer à moitié notre ambulance, mais je pense que nous avons besoin d'une autre ambulance encore pour nous permettre d'évacuer les malades, d'évacuer tout ce qui est blessé de guerre, si le plateau technique ne nous permet pas, et aussi de nous permettre de nous réapprovisionner en médicaments.
Ozias Silas Guiri Vico Yandi, merci.
Merci beaucoup, monsieur Senapai.